sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous. Pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas ou ce qui ne se voit pas. Je vous propose aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, de tendre l'oreille en parcourant ensemble des paysages imaginaires, en ouvrant des fenêtres sur le dehors, le dedans, en déchiffrant des bruissements, reconnaissant des mots, un texte, une voix, en voyageant entre l'Occident et l'Orient à travers la musique du compositeur japonais Toru Takamitsu, ou en pénétrant l'univers des haïkus qu'on ne peut figer à un moment donné dans le temps. Le temps se fait espace, les mots dans l'espace, l'espace à la jonction des arts. Parfois, quand l'insolite se dissipe, c'est une certaine musique qui se fait jour. C'est une autre étrangeté, située à même la matière sonore qui jaillit. Les mots dans l'espace. Non seulement des mots sur la page, mais des mots hors de la page et des sons hors des mots. Tendre l'oreille vers le bruit électromagnétique émis par la civilisation terrienne et l'espace profond, un paysage sonore parcouru de nappes harmoniques, l'espace et le temps dans toute relation. Chaque fois qu'il y a relation, nous dirons qu'il y a espace. Chaque fois qu'il y a relation, nous dirons qu'il y a temps. Espace dans l'amplitude de la relation, dans l'écart qu'elle suppose. Temps dans le déploiement de la relation, dans le parcours du trajet ou du lien qui rejoint l'un à l'autre les deux termes qu'elle conjugue. Signification du temps, il ne coule pas nulle part. Il n'est la propriété d'aucun point. Il est relation. Il est changement de relation entre les points matériels dans l'espace. Il est mouvement. Signification de l'espace, il s'appuie sur des relations supposées, invariables, entre ces points constitutifs, exprimés par des fractions constantes de mouvement ou de déplacement, renvoyant au temps qui les permettent. Résonance sur Radio B, sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Haïku écrit par le poète Issa, poète japonais. Et là, nous venons d'entendre une œuvre du compositeur japonais Toru Takemitsu, Signal des jours, une fanfare alternée pour deux ensembles de cuivre composée en 1987 et interprétée par le London Sinfonietta sous la direction musicale d'Olivier Knussen. Toru Takemitsu, premier compositeur japonais à avoir acquis une réputation internationale. Toru Takemitsu a passé la première partie de son enfance, jusqu'à l'âge de 7 ans, en Mandchourie, région chinoise occupée par les Japonais où son père travaillait. Revenu au Japon, il poursuit sa scolarité jusqu'en 1944, date à laquelle il est mobilisé pour renforcer les bases japonaises en prévision de la prochaine invasion américaine. L'histoire politique du Japon depuis 1868 a oscillé entre l'intégration de la culture occidentale et des périodes protectionnistes de retour à la tradition nationale. Les années 70 sont celles de la consécration pour le compositeur. Il est nommé directeur de Space Theater dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka en 1970. Et il a un catalogue qui s'accroît de façon importante dans des domaines très divers. Il reçoit parallèlement de nombreux prix et honneurs internationaux qui ponctueront régulièrement ces dernières années. La production de Takemitsu, dans les années 80, sera majoritairement consacrée à alimenter les cycles Waterscape, Lone Tree, Lone Spell, Lone Coming et Dream, Dreamtime, Dream Windows, Dream Dreaming, qui coïncideront avec une musique de plus en plus consonante et dont le point culminant sera atteint avec Quotation of the Dream. C'est d'ailleurs l'extrait Signal des jours que nous avons entendu fait partie justement de ce cycle de Quotation of Dream. La réconciliation entre les cultures est symbolisée dans le concept de mer des tonalités qui apparaît comme le maillon esthétique et musical entre l'Orient et l'Occident. Voilà en quelques mots justement l'univers et les sources un peu de la démarche artistique et d'écriture du compositeur japonais Toru Takemitsu. Alors, je vous propose après cette entrée justement de poursuivre cette idée de voyage entre l'Occident et l'Orient et de découvrir et d'entendre quelques haïkus imaginés côté Occident par Mathieu Convert, Asma Aloui et Christian Seux, tous trois résidents à l'ESAT de Treffort de la Dapaï de l'Ain et qui se sont lancés depuis quelques mois dans l'écriture de haïkus avec la complicité de Jean-Pierre Barbosa da Silva.
Les arbres pleurent. Car la nature passe et le temps est vieux. Les arbres pleurent, car la nature passe et le temps est vieux.
Sur un étang jaune, je la vois apparaître une image bleue. Sur un étang jaune, je la vois apparaître une image bleue.
Je marche toujours. L'heure avance ici, debout. Tout le temps résonne. Je marche toujours. L'heure avance ici, debout. Tout le temps résonne.
Résonance sur Radio B, sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Mais finalement, on vient d'entendre quelques haïkus qui ont été écrits, imaginés par Mathieu Convert, Asma Aloui et Christian Seux, résidents à l'ESAT de Treffort. Mais finalement, qu'est-ce qu'un haïku ? Pour cela, suivons et empruntons les pas de l'analyste Pascal Senck. Elle nous dit ceci. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le mot « haïku » a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Le vocable, résultant de la contraction de l'expression « hakai no ku », désignait auparavant tout vers « ku » d'une poésie chaînée « renga », de style dit « hakai ». Bachot, né en 1644 et mort en 1694, que l'on considère comme le patriarche du haïku, était en fait un maître du haïka no Ruenga, un style de poésie collective élaboré autour d'un maître par un cercle de participants qui enchaînaient des vers l'un après l'autre dans une sorte de rendu poétique. Dans le haïkai no Ruenga, le maître était le premier à parler. C'est lui qui prononçait le premier vers, oku. Ce vers était critique. Il devait être parfaitement ajusté aux circonstances de la séance poétique. Ce premier vers concentrait tout l'art, toute la puissance créatrice du maître du haïkai. Il possédait une force propre qui transcendait les variations dont il était le prélude. Il marquait les esprits. On y revenait, on l'admirait. On l'appréciait pour lui-même, de sorte que l'on se mit à collectionner les premiers vers d'un même maître pour les réunir dans les anthologies. Pour comprendre ce qu'est un haïku, il faut s'imprégner de son esprit. Cet esprit est mouvant, fluctuant. Il est à la croisée de traditions et d'influences variées aux interactions complexes. Il ne se laisse pas saisir en quelques principes abstraits. Il ne se laisse pas enfermer dans un cadre théorique, dans une philosophie toute faite. On ne peut le figer à un moment donné dans le temps. Et voici justement un haïku d'un des autres grands maîtres en la matière, j'ai dénommé Busson. Poirier en fleurs, sous la lune lisant un livre, une femme. Poirier en fleurs, sous la lune, lisant un livre, une femme. Résonance sur Radio B. Sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Et là, nous venons d'entendre une nouvelle œuvre du compositeur Toru Takamitsu, une œuvre composée en 1991, How Slow the Wind, Comment le lent vent, pour orchestre de chambre et interprétée toujours par le London Sinfonietta, placé sous la direction musicale d'Oliver Knussen. L'amour des chats, quand il a cessé dans la chambre, la lune vague. L'amour des chats, quand il a cessé, dans la chambre, la lune vague. Réveille-toi, réveille-toi, et sois mon compagnon, papillon qui dort. Réveille-toi, réveille-toi, et sois mon compagnon, papillon qui dort. Deux haïkus de ce grand maître qu'était Baisho. Et je vous propose de découvrir encore deux autres haïkus imaginés, inventés, écrits par Asma Aloui, résidente à l'ESAT de Tréfort dans l'Ain et dépendante de la DPI de l'Ain.
Il pleut des cornes. Faut se mettre à l'abri. Et les escargots? Il pleut des cornes. Il faut se mettre à l'abri. Et les escargots? Les hirondelles chantent car le printemps est là. Elles grignotent. Les hirondelles chantent car le printemps est là. Elles grignotent.
Résonance sur Radio B. Sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Peut-être que vous aussi, cher auditeur, vous pouvez vous aventurer dans l'écriture du haïku. Ayez toujours un petit carnet sur vous. Ce sont surtout des sentiments imprévus, des impressions inhabituelles, des surprises du quotidien qui vous donneront envie de l'ouvrir pour écrire. Alors, n'hésitez pas et peut-être même adressez-nous vos haïkus. Alors, nous allons continuer à travers le temps, à travers l'espace, à voyager. Et nos pas vont nous entraîner vers ceux de Baudouin Oesterlinck, installateur, performeur, dessinateur, sculpteur belge, collectionneur de sons et arpenteur du monde, qui tente d'élargir les capacités d'écoute en créant des prothèses et objets musicaux qui démultiplient et agrandissent nos oreilles. Ici, pour l'écriture de sa pièce Oratorio, un jour de 1977, il nous dit « J'ai entendu de magnifiques articulations vocales provenant d'un groupe de personnes handicapées mentales. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était que l'on ne savait pas dire si c'était un rire ou une expression de peur. »
Oui.
Attention. Oui, ça c'est ça. Écoute, oui. Écoute, oui. Écoute, oui. Ich schau an die Kie.
Résonance. Ouais. Résonance sur Radio B, sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Le temps se fait espace, les mots dans l'espace. Parfois, quand l'insolite se dissipe, c'est une certaine musique qui se fait jour, c'est une autre étrangeté, située à même la matière sonore qui jaillit. Je crois qu'avec ce que nous venons d'entendre, cette pièce Oratorio de 1977, pièce imaginée par Baudouin Osterling et extraite du disque Musique Oblique, une production de Art et Marge à Bruxelles, en Belgique. Eh bien, cet oratorio entre justement dans ce côté insolite qui se dissipe et qui fait justement qu'une musique jaillit, une musique se fait jour. Et pour Oratorio, Baudouin Osterling dit qu'il a gardé les voix telles quelles et d'autres modifiées par la vitesse du déroulement de la bande. On obtient ainsi des voix très proches, des voix normales et d'autres telles quelles, très sculpturales pour les solistes. Les personnes en situation de handicap ont été extrêmement réceptives lors de l'écoute d'Oratorio. C'était comme si enfin elles se reconnaissaient, nous dit Baudouin Osterling. Peut-être qu'elles nous comprennent. Peut-être que nous ne les comprenons pas. Ouvrir nos fenêtres, pour tendre l'oreille à l'écoute du dehors, pour aller à la rencontre de ses dires, de ses paroles et les recevoir. Aujourd'hui, dans notre rubrique Point de vue, je vous propose d'accueillir les réflexions et les propos de Dominique Bataillard, résident à l'ESAT et au foyer d'hébergement de Tréfort de la Dapille.
Les fuchsias, ce sont de très belles fleurs qui ressemblent à des demoiselles en jupon. Il y en a de toutes les couleurs, en passant du blanc, du rouge, du bleu et du rose. Il y a des fleurs simples et des doubles. C'est des fleurs qui dansent sur un tapis de verdure comme si elles étaient sur une scène. C'est des fleurs douces, agréables à vivre et à regarder avec les yeux. Je collectionne ces dames en dentelle avec mon père. Nous en avons une centaine. Je les regarde pousser. Quand la fleur éclate, je suis heureux. Quand je vois sa couleur vive, je rayonne de bonheur. Quand je les pince pour les faire ramifier, je vois dans ma tête d'autres bourgeons venir. Quand il y en a une ou plusieurs branches mortes, je suis triste, pas content, car il n'a pas donné vie à la plante. Ces dames multicolores sous des gouttes de pluie, elles sont charmantes, elles pleurent de joie. Quand je les regarde, ça me fait penser à un tableau. On a l'impression de les voir bouger, danser, sauter, gambader, courir dans ce monde de verdure. Ça me fait rayonner.
Résonance sur Radio B, sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. On poursuit à ouvrir nos fenêtres et nous allons ouvrir encore une autre fenêtre pour aller vers un autre espace, une autre relation à l'espace et au temps, avec la poésie de Bernard Heitzig. Pour Bernard Heitzig, la phrase « Tu viens, chérie » est un des pires clichés de la langue française. Elle appartient totalement au trottoir, à la rue. Elle est, de ce fait, presque imprononçable, tant pour une femme que pour un homme. Dans l'enregistrement que nous allons entendre dans quelques instants, intitulé « Tu viens, chérie », 5 hommes et 5 femmes répètent entre 120 et 150 fois ces mots imprononçables dont Heitzig a voulu restituer par un travail essentiellement de montage le potentiel primaire d'angoisse, de tendresse et d'érotisme. « Tu viens, chérie » fait partie d'une série de poèmes-partitions intitulée « Passe-partout », ce terme impliquant, selon Bernard Heitzig, toute chose neutre, indifférenciée, sans caractéristiques propres, et dans ce sens non identifiable, se fondant dans son environnement, dans la banalité donc, et rejoignant ainsi les notions d'éponge, de serpillière, de caniveau, que le poète associe à son travail d'écriture. Cette comparaison provocante avec des ustensiles de ménage et avec le caniveau signifie à ses yeux que la poésie doit être désormais capable d'absorber la réalité environnante et de se mesurer à elle. Inutile donc de signaler l'immense distance, voire le complet antagonisme existant dans ces mêmes mots de poésie ou de poème, selon qu'ils désignent l'extraordinaire travail d'écriture d'un Mallarmé ou d'un René Char et ses explorations sonores expérimentées à partir des années 50. Je vous propose d'entendre et découvrir le poème de Bernard Hatzik, « Tu viens, chérie ». Résonance sur Radio B. Sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Bernard Hatzik, comme François Dufresne ou Henri Chopin, participe à cette émancipation non seulement des mots sur la page, mais des mots hors de la page et des sons hors des mots. En 1955, Bernard Hatzik écrit qu'il s'agit de rendre actif le poème en l'extrayant de la page, en le projetant physiquement dans l'espace. C'est ce qu'il nomme « poésie-action ». Bernard Hatzik considère que la poésie est, en effet, parvenue à un point ultime. La poésie, dit-il, ne doit plus être enfermée dans le secret des livres et destinée aux seuls poètes entre eux, mais elle doit affronter la réalité sociale environnante et concerner le plus large public. Elle ne doit d'ailleurs plus se constituer uniquement de mots, mais également de sons et de bruits prélevés dans le quotidien le plus immédiat. Aussi bien Bernard Hatzik, utilisera désormais le bruit de manifestations dans la rue, de marteaux-piqueurs, de cris d'enfants, de bribes, de discours politiques, de soupirs, de souffles. Et il jouera avec ses divers effets de distorsion et de parasitage de la diction du son. La part d'écriture de son travail, faite par la lecture à haute voix, montre, par sa disposition sur le papier, des indications de rythme, de durée, de vitesse, de hauteur de son. C'est en cela qu'il peut parler de poème-partition. Bernard Haitzig dit que c'est en écoutant la musique électronique d'un Stockhausen qu'il s'est mis à écrire ce qui va devenir la poésie sonore. La part visuelle de ce travail est donc à la fois la page et dans la performance du poète-lecteur. Résonance sur Radio B, sous les fleurs d'un cerisier, personne n'est vraiment un étranger. Alors nous venons d'entendre une pièce de Jacques Brodier, Exact from Court, là aussi tout un travail de recherche, puisqu'il est artiste et chercheur. Et du coup, il s'est intéressé donc à filtrer certaines réalités, à s'intéresser aux antennes qui captent par réflexion sur l'iconosphère, le bruit électromagnétique émis par la civilisation terrienne et l'espace profond. Ce bruit des ondes, dit-il, est formé des signaux radio venus de toutes parts, musique et voix en leurs multiples langages, qui dérivent et se perdent dans l'océan du bruit cosmique, parfois malmené, taillé à la hache, distordu par des causes non traçables ou par les aléas de la propagation. Une fois détectés, ces signaux peuvent être modelés simultanément comme une argile du temps que l'on pourrait colorer et sculpter par la lumière grâce à un modulateur optique couplé à des cordes vibrantes excitées par ces signaux radio. La musique ainsi créée nous invite dans un paysage sonore parcouru de nappes harmoniques où substituent des bribes de chansons et de voix que les terriens, sur leur îlot de sens, au milieu du bruit immense, semblent adresser à la face du chaos. Voici les mots propres de Jacques Brodier, exprimant un peu le travail et sa recherche en même temps, et qui l'a conduit à imaginer donc la musique que nous venons d'entendre tous ensemble. Voilà pour les fenêtres que je souhaitais ouvrir avec vous, sans dire qu'elles se referment, bien au contraire, elles restent ouvertes à ces dehors, à ces dedans, à tous ces univers, à ces paysages imaginaires que nous avons pu parcourir et traverser ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Donc nous arrivons au terme de celle-ci, réalisée et mise en onde avec la précieuse complicité de Simon de Borne. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Que cette journée vous soit belle et douce, et restez à l'écoute de Radio B.
Parece que no, pero yo creo que sí, que al final...